C'est une de ces nouvelles maladies qui nous font peur. Puis, d'ailleurs, une des questions que je vais poser à notre invité, c'est est-ce que le virus du Zika pourrait remonter jusqu'à nous, jusqu'à donc l'Amérique du Nord, puis éventuellement jusqu'au Canada ou jusqu'au Québec? On va aller le rejoindre sans plus tarder, le docteur Carl Weiss, chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Bonjour, docteur Weiss.
Bonjour, M. Drinville.
D'abord, on apprend là, dans le papier de Mathieu Perrault de ce matin, que, dans le fond, le virus Zika, il provoque des malformations, pas seulement à la naissance. Le bébé peut avoir l'air normal au moment de la naissance et on découvre dans les mois qui suivent, peut-être dans les années qui suivent, des retards de développement, puis effectivement la microcéphalie, donc la tête qui finit par prendre une taille démesurée.
Bon, alors écoutez, c'est pas tout à fait nouveau. En réalité, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le virus du Zika, c'est ce qu'on appelle un virus neurotrope, c'est-à-dire que c'est un virus qui aime le système nerveux central, qui aime les cellules nerveuses. Et donc, pendant le développement fœtal, si le virus se retrouve en train d'infecter la mère, il peut se retrouver au niveau du système nerveux du fœtus et donc éventuellement créer des problèmes ultérieurement. On se doutait un petit peu que le Zika allait donner ce genre de problème, mais jusqu'à cette étude-là, ça n'avait pas été démontré de façon claire et nette. La raison, c'est que la façon dont on a découvert le Zika initialement, avec les problèmes de microcéphalie, c'était plus par observation. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens donc, c'est bizarre, il y a beaucoup de nouveau-nés avec des microcéphalies, donc de petites têtes, et comment ça se fait? Et donc, là, on a fait le lien avec le Zika. Là, on a fait la chose de façon différente. On s'est dit, on sait que le Zika, ça donne des problèmes durant la grossesse. Donc, ce qu'on va faire, tous les enfants qui vont naître d'une mère aux États-Unis qui a eu une infection aiguë ou fortement suspectée avec du Zika durant la grossesse, on va les suivre pendant une année, on va leur faire passer des tests, on va leur faire passer des tests au niveau de leur développement, des tests au niveau de la radiologie. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'un nombre significatif relativement d'enfants, à peu près 1 sur 7, finissait par avoir des problèmes, soit de développement, soit possiblement de vision, par rapport aux autres. Et c'est des problèmes qui, évidemment, ne sont pas visibles au moment de la naissance. Parce qu'au moment de la naissance, la seule chose qu'on voit, ce sont les anomalies physiques. Ce n'est pas forcément les anomalies de développement que vous allez connaître plus tard. Et probablement qu'il va y avoir d'autres suivis à faire. Est-ce que ça va donner plus de troubles d'apprentissage scolaire, etc.? Voilà. On ne le sait pas encore.
Bon, en passant, j'ai confondu microcéphalie et hydrocéphalie. Je m'en excuse auprès des auditeurs. Alors moi, la question que je me pose, mon cher Dr Weiss, c'est d'abord, le virus, il en est où présentement, géographiquement, là, il en est où?
Bon. Alors, historiquement, le Zika, ça a été découvert dans les années 1940 dans la forêt de Zika en Ouganda. Donc, c'est pas un nouveau virus, c'est une vieille affaire. La seule chose, c'est que personne n'y portait trop attention et c'est que ce virus-là s'est propagé sur la planète un peu partout. Donc, le virus du Zika, on le retrouve dans ce qu'on dirait une ceinture tropicale, on va appeler ça, qui part à peu près de l'Afrique centrale, qui se déplace vers l'Asie. Il y a eu une grosse épidémie il y a quelques années en Polynésie française et finalement, ça a atteint l'Amérique du Sud, et c'était durant la Coupe du monde de soccer au Brésil en 2014, donc là, ça avait fait les manchettes. Et après ça, ça s'est propagé vers le nord, donc vers les Caraïbes, ce qui nous intéresse beaucoup, puisque les Québécois vont souvent en vacances dans la zone des Caraïbes, et souvent, ce sont des jeunes qui vont aller là-bas, donc des fois, des jeunes femmes en âge de procréer. Donc, c'est là où le Zika pourrait devenir problématique, je vous dirais. Mais c'est sûr, vous pouvez aussi en attraper en Afrique, vous pouvez aussi en attraper en Amérique centrale, etc., en Asie. Donc, la zone est extrêmement vaste.
Est-ce que le virus a atteint le Mexique?
Alors, il y a eu des cas au Mexique, là, exactement où, vous savez, c'est la géographie est changeante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut suivre de façon continuelle les cartes pour dire oui, il y a eu des cas ici, non, il n'y en a plus ici, etc. Donc, oui, il y a eu des cas à un moment donné au Mexique.
Mais éventuellement, il y aura des cas chez nous, on s'entend?
Ben, il n'y aura pas de cas au Québec, on va dire, indigène de Zika, parce que ce serait compliqué à cause de notre climat. Le développement du virus risque d'être difficile. Même aux États-Unis, on a vu qu'en Floride, il y a eu quelques cas acquis dans la région de Miami, et puis ça a comme été, on va dire, tué dans l'œuf pour toutes sortes de raisons. Donc, plus vous montez vers le nord, plus le Zika, en termes de situation géographique, a peu de chances de se fixer. D'ailleurs, comme il ne s'est pas fixé en Europe du Nord non plus, ou dans l'Europe plus septentrionale, parce qu'il y a une question quand même climatique, ou dans le sud-sud de l'Amérique du Sud, donc si vous allez en Patagonie, par exemple, où la température commence à baisser de façon importante, ce n'est pas un cycle propice pour ce genre de virus-là. Donc, il y a peu de chances d'avoir l'acquisition locale de Zika au Québec.
Rappelez-nous comment il est transmis, le virus.
Alors, c'est une piqûre de moustique, hein, un moustique qui ramasse le virus et puis vous injecte le virus en allant se nourrir sur vous. Et donc, vous allez avoir ce virus qui va circuler dans votre sang. Le Zika, en tant que tel, c'est une maladie très bénigne. C'est-à-dire, pour la majorité des gens, ils sont même pas au courant qu'ils ont attrapé le microbe, puisqu'ils sont totalement asymptomatiques. Ça, c'est la première chose. Puis, ceux qui le sont, la minorité, ils ont très peu de symptômes. C'est des symptômes très limités. Donc, c'est pas une maladie grave, c'est pas une maladie sévère, si ce n'est le fait que, chez quelques cas, ça a été, mais très rare, ça a donné des problèmes neurologiques, mais c'est surtout à cause de la grossesse et des transmissions au fœtus que le Zika est devenu un problème.
Là, ce que j'ai compris, c'est que, alors évidemment, il y a l'insecte qui peut transmettre le virus par la piqûre. Et donc, quand ça devient trop froid, l'insecte ne vit pas dans ces climats-là. Donc, on est d'une certaine façon protégé par notre climat plus nordique. Mais j'ai lu que quelqu'un pourrait contracter le virus, un homme par exemple, et le transmettre par son sperme.
Tout à fait. Alors ça, c'est toujours la transmission sexuelle du virus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a attrapé le virus, on est porteur, entre guillemets, du virus. Et encore une fois, s'il n'y a pas de problème d'aspect, de recherche de grossesse ou quoi que ce soit, bon, comme je vous dis, la majorité du temps, c'est asymptomatique. Mais par exemple, un homme qui se promènerait dans une zone à risque, qui attraperait le Zika, qui ne le saurait pas puisque c'est asymptomatique, qui revient au Québec et qui, là, avec sa conjointe, décide d'avoir un enfant et disent, bon, on va essayer d'avoir un enfant ensemble. Et s'il est porteur du virus au niveau du sperme, et on dit 3 mois d'abstinence de retour de zone endémique, et avant c'était, on parlait même jusqu'à 6 mois, mais oui, il peut y avoir une transmission sexuelle à ce moment-là du virus.
Et là, le virus est transmis à la mère et de la mère à l'enfant dans le.
Ben à ce moment-là, oui, le virus peut être transmis à la mère, et à ce moment-là, si la mère est enceinte, à ce moment-là, et elle fait un Zika aigu, on va dire, dans sa phase de grossesse, à ce moment-là, et surtout en début de grossesse, il peut y avoir une transmission du virus à la mère. Donc, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'on dit que les hommes qui reviennent de zones endémiques, s'ils veulent procréer, qu'ils veulent avoir des enfants avec leur conjointe, ben à ce moment-là, il faut qu'ils aient une zone, on va dire, une zone tampon d'environ 3 mois pour éviter de procréer, pour être certain de ne pas avoir le Zika, parce que le problème qu'on a aussi, c'est l'aspect du test, de la sérologie. C'est pas un test qui est facilement disponible. C'est un test qui est disponible au niveau canadien, au niveau du laboratoire national canadien. Et donc, c'est un test assez complexe. Et il y a une limite à la quantité de tests qu'on peut faire. Donc, on ne peut pas inonder le laboratoire canadien national ou les laboratoires provinciaux qui servent un petit peu de relais avec des tests de Zika pour tout le monde, surtout quand c'est dans un contexte aussi qui est très souvent un contexte, entre guillemets, d'agrément, c'est-à-dire que vous partez en voyage quelque part et vous voulez savoir si vous avez attrapé le Zika par hasard.
C'est ça. Mais ça, il y a moyen de le savoir. C'est juste que c'est compliqué, dites-vous.
C'est compliqué, puis on limite un petit peu les tests. Par exemple, on ne teste pas les hommes. On préfère, on se limite à tester les gens chez qui il va y avoir un impact médical important. Donc, d'abord et avant tout, les femmes enceintes.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on découvre effectivement que la femme est enceinte et qu'elle porte le virus du Zika. Il arrive quoi à ce moment-là?
Ben là, il faut lui parler. On va lui expliquer les risques. Et puis, elle va décider si oui ou non elle veut continuer sa grossesse, quels sont les risques d'avoir un enfant anormal, est-ce que c'est au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, etc., etc. Donc, dépendamment du risque, il va falloir l'évaluer avec la personne en question. On fait aussi des échographies sériées. Les échographies sériées du fœtus vont nous permettre de voir s'il y a des anomalies majeures. Ça nous renseigne sur certaines affaires, mais ça ne nous renseigne pas sur tout non plus, parce qu'il pourrait y avoir des anomalies majeures, comme on a vu plus tard en termes de développement, mais que vous ne verrez pas sur une échographie durant la grossesse.
C'est ça, exactement. Bon, ben écoutez, on va continuer à suivre ça parce que c'est l'une de ces nouvelles maladies hein, qu'on voit apparaître.
Ben, écoutez, ça fait
vous dites que ça fait longtemps, mais on la sent en expansion. Et, ouais. Et là, elle s'est développée, comme vous l'avez dit, dans des zones que nous fréquentons comme touristes. D'ailleurs, vous parliez des Caraïbes. Pouvez-vous être un peu plus précis?
Ben, c'est à peu près tous les Caraïbes. Quand on regarde la carte des Caraïbes, là, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent on en a plus, on en a. Il y a aussi le fait qu'il y a des endroits dans les Caraïbes qui veulent pas non plus trop alarmer les touristes. Parce que
donc, Cuba, Jamaïque, République dominicaine, tout ça?
Alors, si vous allez, c'est ça, donc si vous allez voir la carte active où on dit où il y a des risques de Zika, ben, on va vous montrer Cuba, la Jamaïque, la République dominicaine, Porto Rico. Donc, toutes les îles, je vous dirais, principales au niveau des Caraïbes.
Très bien. Docteur Karl Weiss, chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif et président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. C'est toujours très bien vulgarisé, Docteur Weiss. C'est bien apprécié. Merci.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Dans un instant, l'actualité internationale avec Loïc Tassé.